Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
L'année 1969, selon Brice Couturier, et ici Barbara dans le film La fiancée du pirate qui date de cette année-là.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. Car je m'en balance, je m'en balance, je me balance.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous êtes un journaliste d'idées bien connu, chroniqueur notamment à France Culture, 11h53 tous les jours. Alors certains des auditeurs de France Culture vous adorent et d'autres adorent vous détester.
Qu'on dit ça, oui.
Oui. Brice Couturier, vous avez entrepris une grande campagne de fouilles.
Archéologique.
Archéologique. Dans votre passé, parce que vous étiez déjà né en 1969 et vous aviez même passé le bac. Et puis, une campagne de fouilles dans les idées qui prévalaient à l'époque. Ça vous fait plaisir d'entendre La fiancée du pirate. Vous avez regardé tous les films de cette année-là. Et puis alors celui-ci, il exprime si bien la libération du sexe. Parce que voilà une fille, c'est Bernadette Lafont, qui joue le rôle de la fiancée du pirate, qui libère un village coincé en s'offrant à tous.
En se prostituant et en accumulant des objets qu'elle va brûler à la fin du film, de manière très symbolique, parce que c'est aussi un film contre la société de consommation. Mais c'est surtout génial parce qu'à la fin du film, bon, je peux raconter, parce que je crois que maintenant c'est 50 ans après, je crois qu'on peut raconter la fin. Dans l'église, elle a enregistré les confessions de ses différents amants qui disent tous du mal de leur compagne ou de leur femme. Et elle diffuse ces enregistrements en pleine messe, alors qu'elle-même, elle vient de partir sur la route en tenant ses chaussures à la main et qu'elle marche à pied sur une route et qu'elle s'en va.
À plusieurs reprises dans ce livre, 1969, année fatidique qui paraît aux éditions de l'Observatoire, vous répétez que l'histoire de ces années-là a été faite par des participants comme vous et par des gens qui sont restés sur leur position de départ, considérant que la libération n'avait fait qu'avancer à grands pas. Vous êtes fier d'avoir participé à la libération sexuelle en 1969 ?
Pas particulièrement, si vous voulez. Moi, la thèse de mon bouquin, c'est qu'en fait, 68 nous cache c'est l'arbre qui nous cache la forêt. En fait, les 60s sont une chose, sont un bloc, et à l'intérieur des 60s, il y a un moment où il y a un dérapage. La thèse de mon livre, c'est que 69, c'est le dérapage qui succède à l'échec monumental de 68. Parce qu'en fait, toutes ces commémorations auxquelles on a assisté l'année dernière tendaient à nous faire croire que tout ce que nous avons de bien aujourd'hui, d'émancipation, de libération, d'écrasement des hiérarchies et de l'autorité, nous venait de 68. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, 68 a été un fantastique échec partout, parce que je m'occupe pas seulement de la France, mais aussi beaucoup des États-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, et je montre que partout, ça a été un bide, en fait, 68.
Oui, mais si vous voulez bien...
Et 69, on s'est radicalisé à cause de ce bide.
Si vous voulez bien, commençons quand même par l'exploration personnelle. Alors vous êtes un jeune homme qui écoutait de la musique.
J'étais très fan de rock, oui. Ouais. J'étais un Motz des 60s, ouais.
Musique d'outre-Manche.
Ouais.
C'était quand même
Rolling Stones,
principal
ou
marché.
Kings.
Et vous avez été Stones plus tard ou pas du tout?
Bah, vu ce que les Stones sont devenus, ça donne pas tellement envie. Enfin, je sais bien qu'ils ont franchi, ils sont une troisième génération de fans. C'est assez prodigieux. Mais non, leur itinéraire après Exile on Main Street m'intéresse beaucoup moins que ce qu'ils ont fait
avant.
Oui,
mais le pari, c'est aussi de raconter ce que vous étiez avant que vous ne battiez votre coulpe à cause de ce que vous êtes devenu, Brice Couturier.
C'est pas un livre à la première personne, hein.
Oui, quand même, vous racontez des choses. Alors, sur l'Angleterre, donc le contact avec la musique. Les films anglais, vous vous souveniez pas de celui-ci qui s'appelle If, avec Malcolm McDowell, c'est... Ça se passe dans une public school où les vieux professeurs et les élèves les plus âgés qui font partie des fraternités tiennent le haut du pavé.
Bien sûr que si, j'en parle dans mon bouquin
oui.
De If. Oui, bah, si vous voulez, ce qui est intéressant dans If, c'est cette révolte des étudiants contre les profs et les parents. Et en fait, ce que je montre, c'est que dans l'année 69, effectivement, ce genre de soulèvement a lieu partout, surtout aux États-Unis, en Allemagne aussi.
Parce que vous racontez La fiancée du pirate à partir de la fin. Le dévoilement qui fait scandale, eh ben nous on va écouter un extrait de If, mais un extrait de la fin, parce que les élèves révoltés sont montés sur les toits de la public school et ils tirent à vue, même quand les plus hautes notabilités essayent de négocier avec eux.
Boys, I understand you. Listen to reason and trust me. Trust me.
Voilà, c'est facile à prévoir la fin des films de 69-70. Zabriskie Point de Antonioni, ça se passe aux États-Unis.
C'est ancien que 69. Ouais. C'est ancien que 69. Et ça se finit, vous vous souvenez comment la jeune fille imagine qu'elle va faire sauter l'espèce
de
grand hôtel ouais. Qui est dans lequel son patron est en train de négocier on ne sait quoi. Antonioni, merci, fait exploser à plusieurs reprises au ralenti cet endroit pour qu'on imagine effectivement cette. Il y a beaucoup de violence dans l'air en 69 et pas seulement dans l'air.
Vous débutez vos études à Vincennes, centre universitaire expérimental. Vous allez les prolonger en Cagne, mais au fond, la Cagne, ça vous a beaucoup moins intéressé que Vincennes. Pourtant, Vincennes, vous le décrivez, ce centre universitaire expérimental fondé par Edgar Faure dans la foulée de mai 68 et pour initier sa réforme de l'autonomie des universités comme un nœud de contradiction.
Oui, parce que ça avait été fondé en réalité par une bande d'anglicistes qui voulaient en faire un Berkeley français, qui comprenait qu'il y avait un fantastique retard dans les méthodes pédagogiques à l'université française qu'il fallait réformer. Et donc vous avez eu à cette époque une d'étranges convergences politiques entre le Parti communiste qui était assez réformateur, Edgar Faure qui était ce vieux radical rallié au gaullisme et qui avait en face d'eux deux adversaires politiques en réalité, à la fois la droite qui tenait l'Assemblée nationale, parce que justement l'échec de c'est le fait qu'on a eu l'Assemblée nationale l'une des plus à droite de notre histoire et qui ne voulait pas des réformes d'Edgar Faure. Et puis vous aviez les gauchistes dans mon genre qui ne voulaient pas que ça réussisse en réalité, qui ne voulaient pas de ces élections qui auraient donné une autonomie à cette université. Donc c'était une époque politiquement très intéressante.
Oui, parce qu'Edgar Faure voulait des élections dans chaque université. Il disait que s'il n'y avait pas d'élections à Vincennes, il n'y avait pas de diplômes. Les habitués des chroniques de Brice Couturier vous ont entendu dire... les communistes qui, à l'époque, étaient réformateurs. Et victimes même, non pas de conduite de Vincennes, mais de conduite de Grenoble, vous savez, au sens ancien du mot, quand on reconduisait hors de son espace propre les gens qu'on détestait, qu'on humiliait, les communistes ont été victimes de procédures violentes.
Absolument, de la part des Mao. Il faut se souvenir que quelqu'un comme Gisèle Brecht, qui était un très grand germaniste, un grand prof de Vincennes, qui faisait vraiment honneur à cette université en l'ayant choisi, a été ainsi reconduit jusqu'à l'arrêt d'autobus par des maoïstes vociférants, qui lui ont interdit de séjour parce qu'il n'avait pas apprécié un article qu'il avait publié dans l'Humanité. D'autres cas ont eu lieu comme ça dans ces années-là, et ce type de raccompagnement une façon de raccompagner les profs à l'arrêt d'autobus et les interdire pour qui un jour, 15 jours, qui un mois, était soi-disant imité des pratiques des gardes rouges en Chine. Et voilà, on jouait à la Chine dans le bois de Vincennes.
Mais aussi des pratiques de certaines universités américaines que dans d'autres chapitres de votre livre, Brice Couturier, vous décrivez. Et c'est ainsi que les élections n'ont pas pu avoir lieu, du moins leur premier tour. Parce que ensuite les communistes ont pris leur revanche et ont réussi à faire organiser librement, en occupant une partie de la faculté avec des garçons armés,
musclés.
Ce foutu scrutin.
«
Alors j'ai découvert beaucoup de choses dans votre livre, notamment en matière musicale. Le troisième marché du disque, c'est la RFA, cette année 1969. Et ce que nous entendons là, c'est une variété de rock choucroute. Titre très 69, Phallus Dei. Et le groupe
C'est Tangerine Dream, un groupe de Berlin, qui fait partie de ce qu'on appelait, j'ai un chapitre là-dessus, le rock choucroute. Parce que le krautrock, comme vous le disiez, l'Allemagne était le troisième consommateur de musique, mais c'était aussi, enfin à partir de la fin des années 68 et 69, vous avez un grand mouvement musical rock, jazz, free, en Allemagne, en RFA, où il y a des groupes très intéressants, comme celui que vient d'entendre Tangerine Dream. Vous avez vu, c'est une espèce de rythmique hypnotique sur laquelle on peut greffer des improvisations. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que les Allemands avaient à l'époque une certaine avance en matière de pop et de rock. D'une part parce qu'ils étaient très à l'écoute de ce que faisaient les Anglo-Saxons et les Pink Floyd en particulier. On en voit l'influence. Mais surtout parce qu'il y a le sens symphonique des Allemands et il y a l'avance technologique de l'Allemagne fédérale. Ils ont les premiers Moog synthétiseurs. Ils font des effets dub. Ils font des improvisations sur de l'overdub. Ils mettent des couches superposées de musique. C'est une musique très très électronique, très très intelligente, très très calculée, très différente de la musique anglo-saxonne de l'époque, avec une certaine avance.
Il faut dire quand même que vous avez une dilection dès cet âge-là pour l'Allemagne. Vous avez été emmené par votre père, au fond, qui avait été un combattant FFI et qui croyait à la réconciliation franco-allemande, dans un camp de la Croix-Rouge. À 14 ans, vous aviez un correspondant qui était plus grand que vous, qui vous initiait aux machines à sous. Et qui vous voyez avec satisfaction enfin être dragué par des jeunes Allemandes. Je dis ça parce que je sais que vous n'avez pas envie de parler intimement, Brice Couturier. C'est l'année en Allemagne d'un film que vous aimez aussi beaucoup, qui s'appelle Scène de chasse en Bavière. Alors c'est un peu comme dans La fiancée du pirate, hein, c'est un village immobile,
ouais.
La Bavière.
Bavière.
Pensez. Et voilà qu'un garçon arrive.
Et ce garçon,
il s'appelle
Abraham, déjà.
Il est pas mal, il est gentil, il aide personne.
Il aide tout le monde.
Il aide tout le monde, ouais. Mais l'accompagne.
Il se fait draguer par plusieurs femmes, dont une qui a un enfant qui voudrait se faire épouser par lui, et bizarrement, il s'intéresse à aucune de ces femmes. Et la réputation qu'il a dans ce village, c'est d'être homosexuel.
Ben oui, et moi je vais vous dire, dit chacun dans le village, s'il est en tôle ou s'il a été en tôle, il y a bien des raisons morales.
Tu sais ce que dit le patron de la brasserie à Rindorf ? La petite brasserie de la place. Là où je prends le bus pour aller à l'usine.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit qu'Abraham va toujours dans les endroits fréquentés seulement par des hommes. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu te rends compte ?
Ouais, c'est une jolie salope. Et c'est pour ça qu'il aurait fait de la tôle, imagine-toi.
Ouais. Oh, c'est bien possible, après tout.
Qu'est-ce qu'il a fait quand il était en ville, Abraham ? Il a travaillé, c'est tout.
Il a travaillé mon cul, hein.
Bah, tu devrais savoir si oui ou non il a été représenté, sa mère, quand même.
Oh, foutez-moi la paix, vous autres. Après tout, il est majeur, il a le droit de faire sa vie comme il l'entend.
Ah, c'est pas une vie bien propre, en tout cas.
Oh, une mère doit toujours savoir ce que fait son garçon. Dis-nous, Barbara, pourquoi t'es allée à la ville, jeudi ?
Oh, c'est bien que tu y es pour rien, toi. Alors pourquoi tu dis pas la vérité ?
Pourquoi elle dit pas la vérité ? Ah,
qu'est-ce que ça peut vous faire ?
C'est presque qu'on est sur son fils. Si on l'a mis en prison, c'est bien pour quelque chose.
Mais j'en sais rien. Comment faut vous le dire ?
Oh, je suis sûr qu'on arrivera à la connaître, la vérité sur ton fils.
Et là encore, la fin du film est prévisible. Ça va être la chasse à l'homme contre Abraham. C'est une année de transformation sexuelle, vous l'admettez, ça ?
Ah, si vous voulez, c'est sur la base, encore une fois, des échecs de 68 que les mouvements étudiants éclatent en tendances multiples. Et c'est l'année où 69, où on dit « the personal is political ». C'est-à-dire qu'on commence à parler non plus d'une émancipation collective, mais d'une émancipation individuelle. On commence à plaquer ses propres problèmes sur un mouvement plus général. Et c'est la naissance du mouvement homosexuel américain. Stonewall, la première fois que les homosexuels se se rassemble pour défendre un lieu de drague qui est attaqué par la police et qui réplique, qui toute une nuit, il y a une bataille monstre autour du Stonewall Hill à New York, à Greenwich Village, parce que les policiers sont intervenus sans mandat. Et il y a une bagarre monstre. Et c'est sur cette base. La première Gay Pride date de 69 également. Hein. C'est 69 est beaucoup plus intéressant que 68.
Et une couverture de Time sur cette question à la fin de l'année 1969. Je reviens sur le mot éclatement. Je des va-et-vient entre les États-Unis et la Californie, par exemple. C'est l'année où Edgar Morin vit en Californie et il dit, vous le citez, il y a trois évolutions possibles du grand mouvement de révolte de la jeunesse. La drogue et la clochardisation. La transformation individuelle, ce que vous venez de dire. Et puis aussi, autre possibilité, un autre hallucinogène qui s'appelle le marxisme. Léninisme, et dont vous risquez d'être atteint parce que vous avez sur les murs de votre chambre une photo du leader de la SDS, du grand mouvement de gauche extra-parlementaire des étudiants qui s'appelle
Socialist Teacher,
Rudi Dutschke. Vous parlez mieux allemand que moi, Rudi Dutschke. Rudi le Rouge, qui va faire l'objet d'une chasse à l'homme, puisque il va être victime avant 69 d'un attentat qui va le laisser en très mauvais état. Il mourra assez rapidement ensuite.
À Berlin-Ouest, depuis quelque temps, le groupe des étudiants de la SDS avait beaucoup fait parler de lui. Surtout son porte-parole, Rudi Dutschke. Champion des étudiants allemands révoltés, décidé à remettre en question prospérité et civilisation de consommation, Rudi Dutschke, étudiant de sociologie de 28 ans, s'était fait le théoricien des manifestations de rue, la confrontation violente étant considérée par lui comme le seul moyen d'être prise au sérieux. Il pouvait ainsi faire manœuvrer à Berlin 5000 étudiants. Un événement brutal a mis le feu aux poudres. L'attentat perpétré contre Dutschke a jeté des hordes de jeunes sur les immeubles du mania de la presse allemand.
Axel Springer, propriétaire du plus grand empire de presse d'Europe continentale, l'homme le plus puissant et le plus nuisible d'Allemagne fédérale au dire de ses ennemis, c'est là que s'élabore le 70% de la presse berlinoise, une presse qui, au dire des étudiants, conditionne à tel point l'opinion publique par son hystérie anticommuniste qu'elle est responsable morale de l'attentat contre Dutschke.
Untersuche ich einmal, was sie zum Beispiel an mir, an meiner Person auszusetzen haben, so weiß ich es auch im Grunde.
Les extrémistes, je sais parfaitement pourquoi ils m'en veulent. J'ai maintenant 55 ans. J'ai connu l'Allemagne sous quatre régimes différents. Cette longue expérience me permet d'affirmer que jamais l'Allemagne n'a joui d'autant de liberté ni d'autant de bien-être qu'aujourd'hui. Or, cette entreprise et moi-même, nous nous sommes décidés à épauler les structures politiques de la République fédérale, à épauler ce que l'on appelle l'establishment, et qui donne tellement sur les nerfs de ces jeunes extrémistes.
Quand vous réfléchissez, 50 ans plus tard, Brice Couturier, bien sûr, vous dites jusqu'à il a été victime d'une campagne orchestrée par un groupe de presse tout puissant. En même temps, Springer, c'est ce que vous pensez aujourd'hui, n'avez pas complètement tort de vouloir soutenir les institutions de la RFA?
Ce que je dis, c'est que la RFA était probablement l'état le plus démocratique d'Occident à ce moment-là. C'était par rapport aux nôtres, par rapport à nos institutions à nous, qui donnaient un pouvoir colossal au président de la République, qui donnait une majorité assez faible finalement dans les urnes, une majorité colossale dans les sièges au Parlement, qui faisait que par exemple le Parti communiste, qui obtient 21% des voix aux élections de juin 68, ce qui n'est pas rien quand même, se retrouve avec un groupe parlementaire absolument ridicule.
Ça, c'est en France.
C'est en France. En Allemagne, vous avez une vraie démocratie. Donc dénoncer cette démocratie en disant qu'il n'y a aucune différence entre ces démocraties-là et le fascisme et le nazisme, comme faisaient les étudiants d'extrême gauche, c'était évidemment une imposture. Je ne dis pas que Springer était un type formidable, mais ce que je dis, c'est que dire qu'il n'y avait pas de différence, comme on le faisait à l'époque en Allemagne, au SDS, parce que tout ça c'était un régime bourgeois et capitaliste, qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre le régime du nazi d'Hitler et le régime de la RFA, surtout avec les élections de 69, de septembre 69 qui mettent Willy Willy Brandt au pouvoir, c'était vraiment scandaleux.
Alors Willy Brandt au pouvoir, le chancelier SPD, dont le fils d'ailleurs est un militant de la gauche extra-parlementaire et qui irrite beaucoup de ventres rebondis. C'est ainsi que Jean-François Kahn qualifiait beaucoup de chrétiens démocrates en Allemagne. Willy Brandt a été résistant sous l'uniforme norvégien pendant la guerre et en plus il a un fils qui n'est pas présentable.
Le Parlement fédéral a désigné le nouveau chancelier. La coalition des socialistes et des libéraux a mis fin au monopole des démocrates chrétiens et M. Willy Brandt a été élu au premier tour de scrutin, quatrième chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Le nouveau leader de l'Allemagne de l'Ouest revient de loin. Né de père inconnu, Herbert Fram dut en 1933 gagner la Norvège pour échapper aux polices d'Hitler. Élu maire de Berlin-Ouest en 1957 sous son nom de guerre, Willy Brandt, il devait très vite définir sa politique qui consistait à européaniser l'Allemagne.
Jean Pézieux a demandé à Jean Lacouture, journaliste, écrivain, spécialiste de politique étrangère au Monde, de lui énumérer les faits qu'il estime lui importants en 1969.
Que ce qui me paraît capital, c'est l'arrivée au pouvoir de Willy Brandt. Le fait est que Willy Brandt, surtout depuis la dernière conférence de La Haye, apparaît comme une espèce d'arbitre de l'Europe, ce qui est très important. C'est en un sens dangereux, naturellement, puisque on a l'impression que il est capable non seulement d'aboutir à la réunification de l'Allemagne, qui nous fera un voisin tout à fait gigantesque et changera l'équilibre international, mais aussi parce que l'ensemble des relations Est-Ouest en est transformé, que le dialogue direct entre Bonn et Moscou et bientôt même entre Bonn et Pankow et l'Allemagne de l'Est, crée un climat tout à fait nouveau en Europe. Ça contribue évidemment à donner à la France un rôle un peu moins important. Il faut prendre les choses comme elles sont, et celles-là sont capitales.
Il faut prendre des choses au niveau géopolitique. Donc Willy Brandt, il est capable de dialogue direct avec des puissances hostiles. Comme d'ailleurs Nixon, que vous adoriez détester à l'époque, est capable de dialogue direct avec des puissances hostiles.
Si vous voulez, la grande différence entre Willy, il faut voir que les élections 69 sont décisives en Allemagne parce que pour la première fois le SPD arrive au pouvoir tout seul. Ils étaient en coalition déjà avec la CDU depuis déjà 66. Mais les élections de 69 en réalité en RFA se traduisent par des changements minuscules. Les chrétiens démocrates ne perdent que 1,5% des voix et le SPD ne progresse que de 2,8 points. Et le FDP libéral baisse encore plus. Mais ça suffit pour le SPD pour accéder au pouvoir. Et c'est la première fois que le SPD va gouverner avec les libéraux. Et surtout, Willy Brandt, c'est quelqu'un qui pense, à la différence de la CDU, qu'il faut reconnaître l'Allemagne de l'Est, qu'il faut arrêter de dire qu'on accepte d'avoir des relations diplomatiques qu'avec les pays qui ne reconnaissent pas la RDA, ce qui donne lieu à des choses absolument ridicules. Donc c'est une espèce de... C'est surtout la fin du mythe entretenu par la CDU, comme quoi il y aura un jour une réunification de l'Allemagne sous l'égide de la CDU.
Mais si je me mets du point de vue qui était le vôtre à l'époque de la gauche extra-parlementaire, tout ça c'est des calculs d'apothicaire, 2,8... L'important c'est la révolution... Et vous dites que le romantisme de la violence a beaucoup d'inconvénients, alors que les calculs d'apothicaire réussissent à modifier les équilibres.
Ben oui, si vous voulez, il y a une espèce de fascination de la violence, de goût du sacrifice, de goût du sang dans cette extrême gauche extra-parlementaire, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, qui n'est pas du tout. Alors je le compare avec ce qui se passe en Tchécoslovaquie, en Pologne, où ça n'existe pas précisément, où c'est des révolutions de modérés qui ne veulent pas que le sang coule. Dans l'extrême gauche des pays occidentaux, vous avez au contraire cette espèce de fascination de la violence, dont mon maître a pensé Raymond Aron, qui n'y était pas, je vous assure, en 69, c'était pas le cas, estime que c'est beaucoup plus proche du fascisme que d'autre chose. Bien entendu, ce goût du sang, cet appel à la violence purificatrice a quelque chose d'extrêmement inquiétant et c'était partagé par les maoïstes, le SDS, etc.
Mais Raymond Aron, dont vous avez la photo maintenant dans votre bureau à la place de celle de Rudi Dutschke, Raymond Aron disait que le radicalisme dans le vocabulaire, c'était un phénomène de compensation de l'impuissance dans l'action.
Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que quand je cite un ensemble de textes épouvantables et publiés par les revues intellectuelles de l'époque en 69, et pas mal de mes amis qui l'ont lu me disent mais c'est épouvantable. Enfin mes amis plus jeunes j'entends. Comment pouvait-on écrire des choses pareilles? Je leur dis mais oui, c'était simplement un phénomène de compensation. Nous savions pertinemment que la révolution était impossible, que l'encerclement des villes par les campagnes, comme on le racontait à la gauche prolétarienne, était un mythe importé de la Chine populaire et qu'on n'allait pas encercler Clermont-Ferrand et Toulouse à partir de sa banlieue. Mais on se racontait ce genre d'histoire précisément parce que nous savions que c'était impossible, parce que nous étions dans un délire.
Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs l'été 69, le jeune Brice Couturier? Il échappe à l'encerclement en montant dans sa deux chevaux.
Oui, avec trois amis de la fac de Vincennes, nous sommes partis vers l'Est, aussi loin que nous puissions aller. C'était ça l'idée. On a passé le Bosphore, on a été jusqu'à Ankara, et la deux chevaux a commencé à donner des signes de fatigue. Quelque chose comme 100 ou 150 kilomètres après Ankara, c'était une bonne chose, parce que je me demande bien jusqu'où nous aurions pu aller sinon.
Vous étiez accompagné par Jésus, c'était le surnom d'un de vos compagnons.
Un Yougoslave, un hippie Yougoslave.
Vous allez vers Jésus. L'Est, 1969, deux personnages bien connus, les regrettés Dennis Hopper et Peter Fonda, eux, en moto, vont vers l'Ouest. Et c'est une grande randonnée, un road movie, comme on commence à dire, ils déjeunaient en plein air avec une famille hospitalière de paysans, fête plus d'un soir avec des hippies qui s'appelaient Jésus ou qui portaient d'autres noms. Les deux compères sont d'autant plus contents qu'ils ont fourgué un peu de cam et qu'ils ont de l'argent. Et donc ils sont autour d'un feu de camp le dernier soir.
Ça y est, ça y est. Nous sommes riches, regarde. Allez, vieux. Ouais. Ah, on y est arrivé, c'est pas trop tôt. On y est arrivé. On est riches, vieux. On va se retirer en Floride maintenant.
Tu sais, Billy, on s'est paumé.
Quoi? Non, voyons, c'est fait, vieux, cette fois-ci. C'est vrai, on a palpé un beau paquet, on est libre. Tu y es?
Hein? On s'est paumé.
Bon, alors, comme tous les films de l'époque que vous décrivez, Brice Couturier, ça se termine par des coups de feu le lendemain, mais là, ce soir-là, l'un des deux compères dit à l'autre, dans la version française, hein, la traduction française du film, on s'est paumé.
En anglais, c'est « We blew it ». Et je commence mon livre sur 69 avec cette phrase-là, avec cet extrait-là du film.
Et vous traduisez comment, vous ?
« We blew it », c'est pas du tout « on s'est paumé », c'est « on s'est planté », »,« on a perdu », »,« on a foiré », exactement. Et ça m'interpelle beaucoup, ça, parce que ça a été extraordinairement commenté dans la presse américaine de l'époque et depuis. Pourquoi ont-ils ce sentiment d'avoir échoué? Alors qu'effectivement, ils sont riches, tout va bien, etc. Non, ils ont foiré. Et il me semble que ce film, ça a été dit par beaucoup de gens, par Peter Fonda lui-même, qui vient de mourir, et qu'on entendait tout à l'heure. Effectivement, il voulait laisser entendre que la contre-culture, c'était l'échec de la contre-culture elle-même, l'échec de ce qu'on appelait the movement, le mouvement. C'est, quelque part, on se rend compte en 69 qu'on a foiré, que quelque chose a raté, que des opportunités fantastiques, effectivement, d'émancipation, de créativité, etc., qui avaient été emmagasinées dans les 60s, avaient été dépensées en vain, dans une espèce de feu d'artifice final, où beaucoup laissent leur peau ou leur cerveau, parce que le LSD a brûlé les cerveaux de bien des gens, que en 69, quelque chose se passe qui est de l'ordre du break on through to the other side, comme disent la chanson des Doors, que c'est quelque part, on est passé de l'autre côté du miroir, soit vers la mort, soit vers la drogue, soit vers comme dans la fin d'Easy Rider, se faire tuer bêtement par deux pecnos qui passaient en voiture.
Oui, donc c'est un essai sur la contre-culture là, que vous nous produisez. Excusez mon interprétation morale, mais si ça a foiré, c'est peut-être parce que leur but, c'était de gagner de l'argent en faisant trafic de drogue. Et alors, vous avez cette hypothèse que je soumets à nos auditeurs. Au fond, si les gens de 69 étaient si critiques contre la société de consommation, c'est qu'elle n'était pas allée assez loin.
Ça, c'est pas moi qui fais cette hypothèse-là, c'est Gauchet que je cite. Il a tout à fait raison. En fait, on critiquait la société de consommation parce que c'était encore une société de consommation de masse. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire la consommation individualisée, où les réseaux sociaux vous dirigent systématiquement vers ce que vous aurez vraiment envie d'avoir envie.
Allez, lisez les 400 pages, 500 pages,
hein, 600.
600 de 1969. Vous voyez, j'ai pas vu très précisément le nombre de pages, c'est bon signe. Ouais. 1969, année fatidique, c'est aux éditions de l'Observatoire, et puis vous reviendrez à France Inter face à Éric Delvaux. Ce sera dimanche, je crois, à 8h20 aux Aurores. C'est un horaire que vous connaissez à la radio.